Mes frères, nous continuons l'explication du décalogue, les 10 commandements, qui sont le résumé de la loi naturelle. Il y a 2 tables. La première table comprend les 3 premiers commandements et concerne nos rapports avec Dieu. La seconde table, où nous sommes maintenant, concerne nos rapports avec le prochain. Et on peut dire que c'est la vie sociale. Elle s'est ouverte avec le 4e commandement, « Tu honoreras ton père et ta mère ». Parce que la vie sociale commence dans la famille, qui est à la base de la société. Et nous avons vu que ce commandement embrassait tous ceux de qui nous sommes redevables, nos professeurs, ceux qui nous ont appris un métier, les grands hommes de notre patrie, etc. Donc le décalogue nous enseigne que nous ne sommes pas des déracinés. Lorsqu'il parle de la vie sociale, il commence par nous enraciner dans une famille, dans une province, dans un pays. Et cela, c'est la loi naturelle, c'est le fondement de la vraie civilisation. Et c'est très important à se rappeler à notre époque où la franc-maçonnerie, au contraire, travaille à mélanger les peuples et les religions pour construire un nouvel ordre mondial, destructeur de l'ordre naturel et destructeur de la civilisation chrétienne. Après avoir rappelé l'importance de la famille et de la civilisation, le décalogue s'attache maintenant à assurer la concorde entre les hommes. C'est le 5e commandement. Tu ne tueras pas. La portée immédiate de ce 5e commandement, c'est la protection des innocents. Dans une société normale, d'abord, les innocents doivent être protégés. Voilà, c'est ce que dit le décalogue. En effet, lorsque le décalogue nous dit « tu ne tueras pas », c'est sous-entendu « tu ne tueras pas l'innocent ». Ce serait une erreur de s'appuyer sur ce commandement pour dire, par exemple, que la guerre et le métier des armes sont immoraux. La guerre est juste. Lorsque tous les moyens pacifiques ayant été épuisés, elle est le seul moyen de protéger un pays et de sauver la vraie civilisation. Si le rôle des militaires, c'est d'être prêts à sacrifier leur vie pour sauver les familles de notre pays et l'héritage de nos pères, qui sont l'objet du 4e commandement, eh bien, est-ce qu'il y a plus noble mission? C'est une erreur aussi de s'appuyer sur le 5e commandement pour dire que la peine de mort pour les grands criminels s'oppose à la loi de Dieu. Il n'y a qu'à lire la Bible pour constater le contraire. Ainsi, parmi d'autres, ces paroles de Dieu lui-même, à Noé, quiconque aura versé le sang de l'homme innocent le paiera de son propre sang, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Aujourd'hui, tout est inversé et c'est révolutionnaire. On ne veut plus punir les criminels, ce qui met les honnêtes gens en danger, et l'on fait des lois pour permettre le meurtre des innocents, exactement le contraire. C'est l'avortement pour tuer l'enfant à naître. Et c'est l'euthanasie qui assassine des vieillards sans défense dans les hôpitaux. Eh bien, le 5e commandement nous rappelle au contraire que le fondement de la concorde sociale, c'est la protection des innocents et la punition des coupables par les magistrats qui en ont été chargés, parce que, bien sûr, on ne se fait pas sa propre justice. Cependant, le catéchisme remarque que le 5e commandement va bien plus loin que l'interdiction de l'homicide, surtout pour les chrétiens. Lisons le catéchisme. Le chrétien a appris de Jésus-Christ que cette loi est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle nous ordonne non seulement d'avoir les mains pures de tout sang innocent, mais encore le cœur droit et irréprochable. Voici les paroles de notre Seigneur dans l'Évangile selon saint Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera méritera d'être condamné au jugement. Mais moi je vous le dis, quiconque s'irrite contre son prochain sera condamné par le jugement. Celui qui dit à son frère raca, c'est-à-dire tête vide, sera condamné par le conseil, c'est-à-dire par un tribunal. Celui qui dira fou sera condamné au feu de l'enfer. Vous voyez, il y a une gradation ici. Notre Seigneur condamne la mauvaise colère, celle qui vient d'une passion déréglée, Ensuite, il condamne les insultes, mauvaise colère conduit aux insultes, et enfin, les paroles de haine. Parce qu'on peut blesser, on peut tuer d'une certaine manière par la langue. Mais il y a aussi une autre manière de tuer quelqu'un, c'est de le tuer dans l'estime des autres. Et c'est ici le péché de détraction. Il faut s'arrêter quelques instants parce que c'est un péché fréquent dont on n'a souvent aucune mauvaise conscience et que l'on cherche rarement à réparer. Tout d'abord, il faut rappeler que toute personne, pour avoir une vie sociale normale, a droit en soi à une bonne réputation. C'est une question de justice. La réputation, c'est comme une propriété, c'est un capital qui s'acquiert, comme pour les biens matériels, par notre travail ou par un héritage, un capital que nous avons reçu. Ici, le travail, eh bien, c'est le bon exemple que jusqu'ici nous avons donné autour de nous dans notre vie et qui fait que l'on nous estime comme quelqu'un, au moins quelqu'un d'honnête. Voilà. Et puis ensuite, l'héritage que nous avons reçu, eh bien oui, notre famille de ses ancêtres a reçu une bonne réputation. Nous pouvons recevoir aussi une bonne réputation de la communauté, du groupe social dont nous faisons partie. Tout ça, c'est un capital. Cette bonne réputation, il faut savoir aussi que l'homme y a droit même après sa mort. Parce que si le corps est mort, l'âme est toujours vivante. Elle est immortelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur lui. Et il faut encore ajouter que ce droit à la bonne réputation s'étend très loin. Chacun a droit à une bonne réputation, même dans la pensée du prochain, même s'il n'y a pas de parole. Si l'on pense injustement du mal de quelqu'un, eh bien cela s'appelle le jugement téméraire et c'est un péché. Si tout cela nous étonne un peu, demandons-nous, par exemple, si l'on apprend que l'on a dit du mal de nous dans un groupe à la sortie de la messe ou lors d'un repas, est-ce que nous serons contents? De même, est-ce que nous sommes contents lorsqu'on pense mal de nous, même si l'on ne nous dit rien? Ben non, nous sommes blessés. Eh bien, cela prouve que la détraction, c'est une mauvaise chose, c'est un péché. Saint Thomas d'Aquin dit très clairement, « La détraction est ordonnée au dénigrement de la réputation d'autrui en son absence. Mais enlever à quelqu'un sa réputation est une chose très grave, car la réputation est un bien plus précieux que les biens matériels. Voilà pourquoi la détraction est en soi un péché mortel. » Saint Thomas d'Aquin dit que c'est un péché mortel en soi, parce que si le tort causé est très léger, il n'y a bien sûr que péché véniel. Cependant, il faut faire très attention, parce que le péché mortel peut venir vite, par exemple, si l'on répand des soupçons sur la moralité de quelqu'un. Il est important de remarquer ici que le fait que la chose qu'on colporte soit vraie ou fausse ne change rien à la gravité essentielle de ce péché. C'est important de le dire parce qu'on pourrait penser qu'à partir du moment où la chose est vraie, on peut en parler autour de soi. Quand la chose est fausse, cela s'appelle la calomnie. Et alors, au péché de détraction, on ajoute un deuxième péché. C'est le péché de mensonge et les conséquences sont plus graves. Mais quand le mal que l'on dit du prochain est vrai, cela reste en soi un péché grave. Ce n'est pas parce qu'une personne pêche que l'on peut s'arroger le droit de la salir auprès d'autres. On tombe alors dans le péché de médisance. Quand nous voyons quelqu'un pécher, qu'est-ce qui est le plus conforme à l'Évangile ? Bien de l'aider par nos prières. Ou alors, c'est quand même mieux que de le tuer par la médisance, en détruisant sa réputation et en lui rendant le retour presque impossible. Saint Thomas d'Aquin ajoute que si l'on écoute des propos diffamatoires sans les désapprouver, cela revient à y consentir et donc à participer au péché de celui qui dit du mal des autres. Si donc nous nous trouvons dans un groupe ou avec une personne qui dit du mal des autres, Il faut montrer son désaccord, soit par la parole, soit en partant. Encore saint Thomas, il dit « Il faut reprendre le diffamateur en lui disant qu'il pêche en offensant son prochain, ou du moins lui faire sentir, en gardant un visage triste, que l'on ne prend pas plaisir à sa diffamation. » Écoutons la petite histoire arrivée à Socrate. Nous en avons déjà parlé, mais il ne faut pas l'oublier. C'est très utile. On pourrait marquer ça sur un petit papier, les trois points. Vous allez voir. Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit « Écoute, Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. »« Arrête !» interrompit l'homme sage. « As-tu passé ce que tu as à me dire à travers les trois tamis ?»« Trois tamis ?» dit l'autre, rempli d'étonnement. « Oui, mon bon ami, trois tamis. Examinons si ce que tu as à me dire peut passer par les trois tamis. Le premier, c'est celui de la vérité. As-tu contrôlé si tout ce que tu veux me raconter est vrai ?»« Non, je l'ai entendu raconter. Et... » »« Bon, assurément, tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis. C'est celui de la bonté. Ce que tu veux me raconter, si ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce au moins quelque chose de bon ?» Hésitant, l'autre répondit « Non, ce n'est pas quelque chose de bon, au contraire. »« Ah, alors essayons de nous servir du troisième tamis. Voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as envie de me dire. »« Utile, pas précisément. »« Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, eh bien je préfère ne pas le savoir, et quant à toi, je te conseille de l'oublier. » Est-ce que les chrétiens auraient moins de sagesse que certains païens? Bien sûr, et c'est sous-entendu dans cette petite histoire, si la calomnie n'est jamais permise, parce qu'il n'est jamais permis de mentir, il est des cas où il n'y a aucun péché à dire au sujet du prochain un mal qui est vrai, certains cas. Saint Thomas dit ici, ce n'est pas diffamer que de dévoiler le péché caché de son prochain, soit par une dénonciation pour qu'il se corrige, soit par une accusation en justice pour sauvegarder les intérêts du bien public. Donc, pour révéler une faute cachée du prochain, il faut ou bien connaître quelqu'un qui pourra parler au pécheur et l'aider à se convertir, ce pourra être son supérieur ou son ami intime, ou bien se trouver dans un cas où le bien commun est en danger. Et alors, dans ce cas, on a le devoir de dénoncer le pécheur aux autorités. C'est peut-être l'autorité religieuse, l'autorité civile, le directeur d'un établissement ou encore des parents, si l'on a remarqué des choses graves chez leurs enfants. Observons que dans ces deux cas, saint Thomas ne dit pas qu'on est autorisé à divulguer ce péché autour de soi à n'importe qui. Évidemment, s'il s'agit d'un péché public et certain, comme un pécheur public dont le mauvais comportement éclate aux yeux de tous, ou alors un hérétique, c'est plus grave, qui met la foi en danger par ses écrits. Alors là, il est permis d'en parler dans des conversations. D'abord, on n'apprend rien à personne, tout le monde en parle, c'est quelque chose de public, ou la plupart des gens en parlent. Et puis en plus, il y a un danger. Mais même là, il faut quand même faire attention. Il faut en parler en chrétien. C'est-à-dire sans juger les intentions des personnes qui se comportent mal. Nous sommes trop souvent portés à juger les intentions. Ça, c'est le bon Dieu que cela regarde. Et puis sans insulter les personnes. Monseigneur Lefebvre rappelait que dans la crise actuelle de l'Église, par exemple, si pour protéger notre foi, on a le devoir de défendre la vérité, d'attaquer les erreurs, de mettre en garde contre les personnes qui les propagent, bien cela ne nous autorise pas à insulter les personnes, à les traîner dans la boue dans nos conversations. Parlons comme auraient parlé des saints, mais disons la vérité en même temps. Et si nous avons péché par médisance ou calomnie, eh bien pensons au devoir de réparation. Si nous avons dit du mal qui est vrai mais qu'on n'avait pas à dévoiler, bah nous devons tout faire pour rétablir la réputation de la personne. Par exemple, en cherchant une occasion pour en dire du bien, prier le Saint-Esprit pour qu'il suscite cette occasion. Ou en disant qu'on s'est mal exprimé, qu'on a exagéré. Mais si l'on a calomnié quelqu'un, donc on a dit un mensonge, alors on est tenu de rétablir la vérité auprès de tous ceux à qui on a parlé en mal de cette personne. On n'est pas tenu de dire « j'ai menti », ça c'est au confessionnal, mais puis ça ne change rien. Ce qu'on est tenu de dire, c'est bah, « oui, effectivement, j'ai dit cela, mais c'est une erreur », voilà. Rétablir la vérité. Nous sommes un peu étendus, mais tout cela était important à rappeler. Il nous reste maintenant à terminer l'explication de ce cinquième commandement en en donnant l'aspect positif. Il faut bien sûr, pour une vraie vie sociale, pour que se développe la civilisation chrétienne, aller plus loin que d'éviter l'homicide et de ne pas causer du tort à notre prochain par nos paroles. Il faut pratiquer positivement le commandement de la charité, selon ces paroles de notre Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. C'est le plus grand et le premier commandement. Le second est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En ces deux commandements tient toute la loi et les prophètes. Alors, pour pratiquer cette charité, il faut bien comprendre qu'il s'agit ici d'un amour surnaturel que nous devons porter au prochain. Un amour surnaturel qui doit donc nous faire aller au-delà des réactions purement naturelles de sympathie ou d'antipathie que nous pouvons avoir à l'égard de notre prochain. Si nous ne sommes aimables qu'avec les personnes qui nous sont sympathiques, quelle différence y a-t-il entre nous et des païens dans notre comportement extérieur ? Est-ce que c'était nécessaire que notre Seigneur nous donne une vertu qui s'appelle la charité ? Il faut bien comprendre que cette charité est surnaturelle. Et quel est son résultat, son effet ? C'est d'unir notre volonté à celle de notre Seigneur. Nous ne faisons plus qu'un avec lui, afin de faire à notre prochain le bien que notre Seigneur veut lui faire en se servant de nous. On peut dire, la charité nous identifie à notre Seigneur. Le chrétien, par son baptême, est un autre Christ. Les baptisés sont le Christ au milieu des hommes. Et par la charité doit nous aider justement à aimer notre prochain avec le cœur de notre Seigneur. Donc aimer d'abord l'âme de notre prochain, rendre ensuite à son corps tous les services dont il a besoin. Et le catéchisme fait remarquer que cette charité surnaturelle doit aller jusqu'au pardon des offenses avec l'amour des ennemis qui en est la conséquence. Et si l'on se rappelle que la charité nous identifie à notre Seigneur, on le comprend tout de suite. Notre Seigneur est mort pour nous sur la croix alors que nous étions tous ses ennemis. Sa première parole sur la croix, première parole, a été de demander à son Père de pardonner à ses bourreaux. Et donc, pour pouvoir nous pardonner à nous-mêmes, notre Seigneur veut que nous commencions par pardonner à ceux qui nous ont offensés. La mesure avec laquelle notre Seigneur nous pardonnera nos péchés au jour de notre jugement sera la même que nous aurons employée pour pardonner à notre prochain qui nous a offensés. Ne l'oublions pas et nous le disons tous les jours dans notre Père. Voilà, c'est sur ces considérations que le catéchisme du Concile de Trente termine l'explication de ce cinquième commandement, que cette messe à laquelle nous assistons et qui rend présent sur l'autel le plus grand acte de charité de toute l'histoire de l'humanité, le calvaire, et bien que cette messe nous obtienne de pratiquer toujours mieux ce grand commandement de la charité dont notre Seigneur nous a donné un si grand exemple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.